Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h45, on fait un point avec Benjamin Glaise sur la presse.
Oui, Benjamin, alors c'est le jour J pour les Bleus qui affrontent ce soir l'Allemagne à Munich pour son premier match de l'Euro et évidemment beaucoup de journaux en font leur une.
Oui, la France prête pour le sommet franco-allemand, ça c'est le titre par exemple du Parisien aujourd'hui en France, sachant que d'entrée de jeu qui fait également la une du Populaire du Sang qui met en avant les promesses de notre secteur offensif avec cette une, la France d'attaque. Et puis le sport n'empêche pas quelques envolées littéraires comme L'Équipe, par exemple, qui reprend le titre d'un livre de Philippe Delerme, La première gorgée de bière. Un titre de circonstance face aux Allemands, bien sûr, qui plus est pour un match qui se jouera à Munich ce soir à 21h. Une affiche alléchante, ajoute L'Équipe. Une rencontre qui va mettre à l'épreuve le statut de favori de l'équipe de France dans la compétition. Match à vivre en direct et en intégralité, bien sûr, sur Sud Radio à partir de 20h avec Alexandre Priam.
Oui, Le Figaro et Libération se concentrent pour leur part sur les élections régionales et départementales avec un focus sur le parti aux 20 millions de voix du côté de Libération.
Mais c'est pas celui auquel on croit. Parole à l'abstention en l'occurrence, car c'est lui le parti aux 20 millions de voix, entre colère, déception et désintérêt. Ils ne se déplaceront pas dimanche. Ils expliquent à Libération pourquoi ils ne croient plus à la politique. Il y a moins de contact avec le terrain. Le lien avec les élus s'est distendu, déplore notamment ce délégué syndical de Pontivy dans le Morbihan. Que ça soit de droite ou de gauche, c'est la même chose de toute façon. C'est déjà fait d'avance, affirme pour sa part une habitante du Pas-de-Calais. En tout cas, selon une étude Via Voice à retrouver dans Libération. Donc ce matin, 63% des sondés affirment voter à chaque élection, 25% à certaines élections seulement et 4% disent ne voter à aucun scrutin. Du côté du Figaro, eh bien, on envisage déjà les conséquences politiques pour l'exécutif en cas de défaite. Emmanuel Macron devra-t-il remanier son gouvernement, surtout si le RN gagne une ou plusieurs régions? C'est la question que se pose le Figaro. Alors certains de ses proches le préconisent, ce changement, pour relancer la dernière année du quinquennat. Clairement, à défaut de passionner les Français, ces élections régionales et départementales s'avèrent stratégique pour la majorité. Un an de la présidentielle, c'est ce qu'indique le Figaro.
Merci à vous, Benjamin Glaise. On poursuit notre revue de presse avec... on va du côté de Sud-Ouest, avec Laurie Baudéchère qui est avec nous, chef des infos à Sud-Ouest. Bonjour.
Bonjour, Patrick Roger.
Bon, en une ce matin de Sud-Ouest.
Eh bien, on parle euro, forcément, avec donc les bleus qui passent dans le grand bain, ça y est, qui se jettent à l'eau. Et puis, en fait, nous, on a pris un angle un peu particulier. En fait, on se rend compte que les bleus gagnent, mais suscitent finalement pas tant d'enthousiasme que ça. Il y a une étude IFOP qui montre qu'ils ont une cote de sympathie à 56%. C'est le même chiffre qu'en 2012. Une autre étude qu'ils ont une 64%. Une bonne image, mais quand on prend les équipes de rugby, handball ou volleyball, en fait, ces équipes-là flirtent plutôt avec 80% avec une bonne image. Ouais. Donc, en fait, il y a peut-être plusieurs hypothèses à ça. On a interrogé un sociologue qui nous dit qu'en fait, il y a peu de bleus qui jouent dans le championnat français. Ouais. Donc, on ne les connaît pas trop. Et puis, peut-être aussi, il nous dit qu'on est en train de changer d'air, que le sport... Le foot est associé en fait à ce capitalisme acharné et que le sport bling-bling, c'est plus trop ça. D'ailleurs, le joueur préféré des Français serait N'Golo Kanté. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, qui est plutôt à une image.
Réservé, modeste, oui.
Voilà, tout à fait. Donc, voilà, on a pris cet angle-là. Après, bon, il faut se rappeler quand même. Finale France-Croatie 2018, c'est 26,2 millions de spectateurs. Ouais. Voilà, on n'avait jamais atteint ce score. Donc, l'enthousiasme, si la France atteint les phases finales, je pense qu'il va quand même y en avoir beaucoup. C'est ce que nous disent les supporters.
Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est particulièrement intéressant cette étude parce que ça montre bien que, évidemment, avec d'autres sports où il y a peut-être un peu moins d'ego, un peu moins d'argent aussi qui circule, et c'est probablement pour ça qu'on adhère davantage à ces valeurs. Hein. Alexis Poulain, non? Laurie Baudéchère, restez une seconde avec nous. Alexis, non?
Alors oui, mais c'est vrai que le foot, c'est un sport populaire aussi. Donc,
non, mais c'est populaire, ouais, quoi. Mais l'image, en fait, parfois
l'image des joueurs.
Des joueurs.
C'est vrai qu'on a l'impression que, oui, ça ne fait pas collectif, que c'est d'abord des carrières personnelles, qu'il y a le côté égo qui fait que ça, c'est d'abord un sport d'équipe. Et parfois, évidemment, le sport business fait qu'on n'a plus l'impression de ça.
Il n'y a pas une adhésion aussi forte. Et pourtant, on attend beaucoup quand même de ces bleus qui avaient une cote de sympathie, ce que vous disiez aussi avec l'Euro, avec la Coupe du Monde gagnée. Merci, donc c'est à lire dans Sud-Ouest.
Merci.
Merci beaucoup et on continue le petit déjeuner de l'actu avec vous à 0826 300 300 avec Alexis Poulain qui est avec nous, Éric Revel et Elisabeth Lévy.
Oui, beaucoup de sujets sur la table. Il y a notamment cette question autour de la vaccination des ados. Est-ce que vous allez emmener vos ados se faire vacciner puisque c'est à partir d'aujourd'hui, les 12-17 ans? 95%. Alors, ce n'est qu'un sondage, hein, bien sûr, quand même, quoi. Mais
c'est auprès
de, c'est une tendance hein, de des gens qui ont voté sur les réseaux sociaux là ce matin disent plutôt non. Et ils s'expliquent. Alexis et Elisabeth et Éric Revel.
Il faut lire l'interview de la présidente de l'association de pédiatrie française hein, dans le Parisien.
Dans le Parisien.
Qui est pas du tout. Pour et qui est plutôt mitigé, qui dit je recommande le vaccin pour des ados qui auraient des maladies ou des choses qui feraient qu'ils pourraient développer un Covid grave, mais que pour la majorité des ados, elle ne comprend pas qu'en fait les adultes fassent peser le poids vaccinal sur les plus jeunes. En fait, ça montre la lâcheté de certains adultes.
Elle dénonce une vaccination altruiste.
Oui, voilà, en disant finalement, on va obliger les gosses d'une certaine façon à se vacciner, les parents vont pousser les enfants à le faire, ou les enfants qui veulent retrouver une vie normale vont le faire, mais ça veut dire quoi que on pousse le poids vaccinal sur les plus jeunes plutôt que de responsabiliser les adultes sur leur responsabilité collective vis-à-vis de cette campagne de vaccination. Et puis elle dit aussi que même si les études de Pfizer sont plutôt bonnes, c'est uniquement sur 2600 enfants, ce qui fait peu, et qu'il faut attendre des retours en disant, attendons de voir ce qui se passe aux États-Unis avec quelques mois de retour puisque eux ont commencé à vacciner les plus jeunes avant nous, plutôt que de s'engouffrer dans une stratégie vaccinale altruiste, évidemment, pour les plus jeunes, qui n'a rien à voir avec des raisons sanitaires, puisque eux ne risquent pas grand-chose. Hein, elle le rappelle. Et je ne fais que rapporter ces propos. Hein.
Elisabeth Lévy et Éric Revel.
Moi, je suis effondrée de vous entendre parler de poids vaccinal. Excusez-moi, avoir des vaccins, c'est une chance. Je veux dire, il faut quand même arrêter avec cette histoire. On dirait vraiment, allez vous soigner ou allez vous protéger. C'est horrible ce qu'on vous fait, mes pauvres petits. Le poids, écoutez, d'abord les jeunes, quand ils voudront passer des frontières, aller à Mykonos ou je ne sais où, vous verrez qu'ils vont se ruer sur le vaccin. Et pas par altruisme, parce qu'ils voudront passer des frontières. Et puis...
Attention, les jeunes, ce sont des ados. Hein. Ce sont des 12-17 ans, ce ne sont pas des 17-25 ans. De même.
Et Elisabeth. Ils ne passent pas les frontières, donc.
Si, mais peut-être pas de la même manière.
Mais vous verrez que quand ils voudront passer des frontières, et vous verrez que quand ils voudront passer des frontières, ils se vaccineront. Donc, alors maintenant, évidemment, il y a la question du risque, mais je trouve, alors c'est extraordinaire de dire, attendons de voir ce qui va se passer aux États-Unis. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux études scientifiques, on leur a fait confiance pour les adultes. Si vous voulez, on a dit qu'il fallait que les gens se vaccinent. Je ne vois pas pourquoi on leur ferait pas confiance pour les jeunes. Est-ce qu'il y a dans les laboratoires des gens qui veulent tuer nos ados, enfin? Mais c'est surtout cette affaire de poids vaccinal que je trouve, moi je suis très choquée, d'entendre tout le monde reprendre ça comme s'il était acquis. Que se vacciner, c'est pas une chance, que c'est pas formidable que la science ait trouvé un vaccin en si peu de temps, que l'humanité n'a pas fait un grand bond avec cette histoire de vaccin et depuis fort longtemps. On fait nos chochottes, on veut pas, moi je suis un peu effaré par tout ça.
Ouais, c'est pas que les chochottes, parce qu'il y a, il peut y avoir en fait des risques avec, comme le dit un auditeur et internaute, pourquoi vacciner une jeune population en bonne santé, parce que il n'y a pas forcément de risque auprès, mais c'est pour la protection.
Non,
mais
c'est apparemment il y a une bonne raison, c'est que sinon tout le monde risque de se retrouver, y compris ces jeunes qui ne l'ont pas supporté, qui nous ont dit toute l'année, je les comprends très bien, on en a ras-le-bol d'être enfermés. Je veux dire, si on se prend encore une quatrième vague parce qu'on n'est pas assez à être vacciné, ce sera pour tout le monde.
Éric Revel, c'est pas pour Éric les Revel autres qui et le font. Alexis de nouveau, et puis vos appels au 0826 300 300. Éric.
Écoutez, moi je comprends tout à fait la position des parents. Je vais vous dire pourquoi. Encore une fois, on ne connaît pas les effets à long terme de ces vaccins. Formidable, on a trouvé en peu de temps, mais on ne connaît pas les effets à long terme de ces vaccins. Donc les parents agissent un peu en protecteur et poussent peut-être pas, leurs ados à se faire vacciner. Puis attendez, deux quand même. L'État se planque en permanence derrière le paravent du principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution française. Le moindre politique qui prend une décision, au nom du principe de précaution, on nous fait porter le masque jusqu'au 30 juin ou jusqu'à la mi-juillet. Et vous ne voudriez pas que les parents, en fait, agissent le même principe de précaution en direction de leurs ados en se posant la question de savoir s'ils doivent les faire vacciner ou pas? Mais pourquoi? l'État, les politiques agissent auparavant du principe de précaution, ben, les parents, d'une certaine manière, ne poussent peut-être pas, il faudrait faire un sondage, leurs ados à se faire vacciner, parce qu'eux-mêmes l'ont été, voilà, ils l'ont fait, ils se posent quand même des questions sur les effets à long terme de ce vaccin. Et donc, bah, le réflexe d'un parent bien senti, c'est de protéger ses enfants, en tout cas d'être prudent. Voilà. Donc moi, si vous me posez la question, je ne suis pas certain que l'ado qui me reste, je le ferai vacciner dans la foulée.
Ouais, voilà. Donc il y a une petite incertitude, quoi, pour... voilà. Un auditeur, évidemment, en ligne, 0826-300-300.
Avec nous, Lionel, c'est Lionel qui nous appelle de Grasse.
Grasse, ouais. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Oui. Votre réaction, vous, par rapport à l'actualité, qu'est-ce qui vous... fait réagir ce matin.
Écoutez, moi déjà pour la vaccination des ados, moi j'ai deux ados à la maison, ouais. J'ai deux filles, très honnêtement c'est même pas en rêve que je les ferai vacciner, même pas en rêve, c'est...
Vous êtes vacciné, Lionel ?
Non, pas du tout.
Non, vous n'êtes pas... D'accord.
Pas du tout, je vais pas me faire vacciner avec un vaccin qui est en test de phase 3, je regrette, hein, je suis pas du tout un anti-vac. Hein,
non, mais d'accord, non mais on mais peut comprendre, bien sûr.
De me faire vacciner, parce que concrètement, ce qui se joue, oui évidemment, c'est une grande chance d'avoir des vaccins, oui évidemment, peut-être que c'est la solution. En attendant, il y a quand même une composante qu'il faut pas oublier, c'est l'argent. L'argent, si vous voulez, le Covid a mis à terre en fait toutes les économies mondiales. Et en fait, les sommes sont tellement colossales et le risque pour l'économie mondiale est tellement important que en fait, on est prêt presque à tout. Moi, je suis pas prêt à tout. Hein. Je suis pas prêt à tout.
Éric, sur l'argent, sur ce que dit Lionel, sur l'argent. Alors, c'est vrai que ça a mis en l'air beaucoup d'économies, bien sûr. Ça repart ce que vous disiez ce matin en reprenant le gouverneur de la Banque de France.
Oui, bien sûr. Alors, il y a le point qui est un peu inquiétant, c'est le niveau d'endettement des États qui s'est surajouté. Souvent déjà à des situations nationales, et c'est le cas le français qui était déjà catastrophique, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que à coup de plans de relance, les économies sont en train de redémarrer. D'ailleurs, elles redémarrent à tel point qu'on a des vrais goulots d'étranglement qui risquent de casser la croissance et donc l'emploi, parce que on n'arrive pas à fournir les fameux, par exemple, semi-conducteurs qui rentrent dans la fabrication des ordis et de tout un tas de produits électroniques, et ces goulots d'étranglement, c'est quand même la cerise sur le gâteau, risquent de contraindre la croissance. Mais ça redémarre très fort parce que ça avait plongé très fort. Maintenant, quelle leçon tirera tout ça, notamment sur la mondialisation ? Ben, je crois que le monde d'après ressemble quand même furieusement au monde d'avant.
Oui. Et d'un mot sur la mondialisation, je vois que ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la filière du bois, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, et Alexis, vous-même, je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas entendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend massivement notre bois, nos chênes, à la Chine. Les Chinois qui arrêtent de couper des chênes pendant 99 ans parce qu'ils veulent les protéger leur forêt et ils achètent beaucoup en France où on peut leur vendre.
L'empire du milieu qui est en train de capter les ressources du monde entier, que ce soit les terres rares, mais également
les terres agricoles.
Vous parlez de la filière du bois, c'est extrêmement important parce qu'on n'en parle pas assez, mais il faut savoir qu'au-delà de préempter du bois coupé comme le font les Chinois achètent également des terres agricoles dans la Beauce, des champs de blé, tout simplement, et on laisse faire. Il y a un laisser-faire vis-à-vis de la globalisation, pensant qu'elle sera toujours positive, qui, moi, m'inquiète, puisqu'on va finir, évidemment, par importer du blé, alors que l'arme verte a été défendue par Jacques Chirac pendant des années, en disant que c'est important de garder une autonomie alimentaire, mais c'est également important aussi, sur des filières comme celle du bois, de garder une autonomie. Et ce n'est pas du tout le cas. Je me rappelle, sur la filière bois, un dernier mot, à l'époque des accords de Paris, donc c'est pas tout neuf, déjà, la sonnette d'alarme avait été tirée en disant on n'a pas organisé cette filière du tout. Donc on est en train de vilipender en fait un patrimoine historique et extrêmement important.
Allez, merci. Il est quasiment 9h. On va en reparler dans un instant avec Antoine Maurice qui sera notre invité de 9h à 9h10 à peu près. Candidat écologiste, tête de liste Occitanie naturellement, justement pour les élections régionales. Vous savez qu'on donne la parole à tout le monde, bien sûr, dans les régions. Et puis ensuite...
Raoult, Didier Raoult, une folie française avec deux journalistes qui ont fait le portrait de ce Didier Raoult dans sa vie privée, dans sa profession, qui il est, d'où il vient. En tout cas, vous saurez tout dans un instant. Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin seront avec nous et c'était aux éditions Gallimard. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et dans un instant, Ariane Chemin, Marie-France Etchegoin seront avec nous, hein, les journalistes qui ont mené une grande enquête sur Didier Raoult. Ça s'appelle Didier Raoult, une folie française audition. Gallimard, 0826 300 300, si vous voulez lui poser des questions. En attendant, on fait un point sur les régionales en Occitanie. On reçoit le candidat de tête de liste, Antoine Maurice, candidat écologiste tête de liste Occitanie naturellement pour les élections régionales, élu au conseil municipal de la mairie de Toulouse.
Oui, bonjour Antoine Maurice.
Bonjour.
Nous recevons donc l'ensemble des candidats, hein, bien sûr, qui sont dans les sondages aussi qui apparaissent. Vous êtes crédité alors de 8 à 10%, un petit peu plus, un petit peu moins, selon les enquêtes. Pourquoi l'écologie qui a eu le vent en poupe au municipal, et on se souvient, on vous avait entendu aussi à cette occasion, ne semble pas prendre lors de ces régionales ?
Écoutez, moi, je me fie pas au sondage d'abord parce qu'on le sait, on l'a vu dans l'histoire, les sondages parfois se trompent. Hein. À une semaine du scrutin, au moment des européennes, les écologistes.
Non, mais c'est une photo. C'est une photo, quoi.
C'est une photo. Mais au moment des européennes, par exemple, les écologistes étaient crédités à une semaine à 8% et ont fait au final 13,5%. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est aussi le sondage de la rue, des villes et villages où nous allons. Il y a quand même une très forte attente aujourd'hui de l'écologie. Ouais. Et je crois que dimanche, il pourrait y avoir des surprises.
Ouais. Alors, Carole Delga a mis beaucoup d'écologie aussi dans son programme. Elle a même le soutien de José Bové. Pour vous, ce n'est pas difficile à vivre, ça ?
Je ne commande pas, moi, les débauchages individuels. Ce qui me importe, c'est le projet et le collectif.
Et quelle est la différence avec justement, la liste Delga ? Vous, qu'est-ce que vous proposez en plus en termes d'environnement ?
La différence, c'est que justement, bon, Carole Delga a un projet socialiste, moi j'ai un projet écologiste qui vise à ne pas faire l'écologie une politique parmi d'autres, mais bien la matrice de toutes les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin que toutes les politiques régionales soient en fonction de leur impact positif ou neutre sur le climat, sur la biodiversité et pour la justice sociale. Et c'est ça le sens de notre projet.
Ouais. Vous revendiquez d'une écologie qui protège, parce qu'on parle beaucoup d'écologie punitive. Hein. Alors c'est quoi l'écologie qui protège ?
La punition aujourd'hui, c'est l'absence d'écologie. On le voit dans tous les domaines. Ouais. L'écologie qui protège, c'est par exemple pour notre santé, agir enfin sur la santé environnementale, c'est-à-dire comment on prévient en termes de mobilité, en termes d'agriculture. Nous avons les moyens d'améliorer la qualité de l'air, d'améliorer les sols et l'eau qui permettent d'avoir une alimentation saine et tout cela contribue à améliorer notre santé. Mmh. L'écologie qui protège, c'est pour nos emplois, ne pas regarder le désastre économique annoncé se dérouler en ne pariant que sur une hypothétique technologie qui s'améliore, mais d'anticiper en préservant les compétences d'aujourd'hui pour voir, par exemple, dans nos industries automobiles, aéronautiques, comment ces compétences aujourd'hui pourraient aussi servir à produire des trains, des vélos, du matériel médical dans l'industrie de la santé. L'écologie.
Mais continuer quand même de produire des voitures ou pas ? Parce que si on ne produit plus de voitures, de toute manière, on les achètera, c'est ce qui se passe déjà beaucoup à l'étranger.
La question, c'est pas d'arrêter de produire des voitures, c'est d'amener des solutions aussi pour sortir de la contrainte de la voiture individuelle. Aujourd'hui, la voiture individuelle, ça n'a pas qu'un coût écologique de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une contrainte économique. Cela coûte cher aujourd'hui et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture individuelle. Donc, les solutions, c'est aussi la diversification de toutes les alternatives, voitures en commun, train, bus, vélo. Nous avons un projet aussi mobilité qui vise à amener une solution pour chaque déplacement.
Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu, ce matin, on a fait l'interview du président de la filière bois en France, qui pousse un coup de colère, un cri d'alarme sur nos forêts françaises. On est en train de vendre nos forêts françaises aux Chinois. Est-ce qu'il faut intervenir et arrêter de vendre nos chênes, notamment, aux Chinois ?
Bien sûr, et il faut justement avoir enfin une véritable politique pour nos forêts, pour trouver justement une gestion durable. Et la forêt pyrénéenne est aussi potentiellement en danger par des projets comme celui de Lannemezan, d'une industrie qui veut venir surexploiter aujourd'hui la forêt pyrénéenne en promettant d'hypothétiques emplois dont on sait très bien que c'est encore une opération financière qui détruirait notre patrimoine commun sans créer de nouveaux emplois. Nous avons des scieries locales, nous voulons nous appuyer sur les scieries locales, les faire travailler.
Elles sont en train de fermer, hein, vous avez entendu, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils disaient, bon, comme on vend, en fait, on ne pourra plus les utiliser, c'est-à-dire que tout part là-bas, mais que faire alors? Parce que l'Europe regarde, mais sans intervenir, quoi.
Ben justement, la région doit prendre ce leadership, y compris au niveau européen, parce qu'avec l'euro-région, nous avons un enjeu commun à travailler avec les régions espagnoles sur cette préservation de la forêt pyrénéenne et sur un projet qui permette justement de remettre ensemble des scieries locales qui peut-être ne travaillent pas, pourquoi pas autour d'un projet de société coopérative d'intérêt collectif. La région, en tout cas, peut prendre le lead et de jouer son rôle de région stratège aussi qui agit pour préserver nos communs.
Ouais. Au second tour, est-ce que vous maintiendrez quoi qu'il en soit ou il y aura un accord avec Carole Delga?
Je l'ai dit, je crois que c'est la clarté qui rassemble et l'ambiguïté qui divise. Les régionales, c'est un scrutin à deux tours. Le premier tour, c'est bien le choix du projet. Oui. Et nous proposons un projet écologiste parce que nous pensons qu'il est le plus à même aujourd'hui de répondre aux enjeux. Et on le voit à l'actualité avec la canicule, tous les phénomènes climatiques, il y a urgence à agir. Le deuxième tour, ce sera le temps, effectivement, de faire en sorte de faire barrage à l'extrême droite, je ne banalise pas l'extrême droite, et de rassembler du coup les forces avec lesquelles nous pouvons construire une majorité claire. Et moi, je l'ai dit, j'appellerai à rassembler les listes de l'arc humaniste, de la France insoumise, du Parti socialiste. Mais ma conviction, c'est que c'est le projet de l'écologie qui sera le plus à même de rassembler cet arc humaniste au deuxième tour.
Merci beaucoup, hein, Antoine Maurice, candidat écologiste, tête de liste, donc Occitanie naturellement. On posera cette question aussi justement à Carole Delga, qui sera notre invitée jeudi matin.
Restez avec nous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on reviendra sur Didier Raoult, cette figure quasi planétaire aujourd'hui. Une enquête de deux journalistes, Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin, seront avec nous dans quelques instants. C'est aux éditions Gallimard. Ça s'appelle Raoult, une folie française.
Oui, elles l'ont rencontré, évidemment. Donc, vous voulez poser des questions. Comment elles l'ont trouvé, etc. Puis, leur enquête, comment et pourquoi elles se sont intéressées à Didier Raoult. Ça, on s'en doute un petit peu. Vous n'hésitez pas. Vous nous appelez.
Et en attendant, on a notre gagnant, Sofiane, qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour, Sofiane.
Oui, bonjour, Cécile.
Comment allez-vous?
Super, merci. Je suis content de vous avoir déjà au téléphone.
Eh bien, c'est moi aussi. Nous, on est très contents. Voilà. Vous attendez depuis un an. On se disait, mais quand est-ce que Sofiane d'Aix-en-Provence va nous appeler? Ça y est, c'est fait. Alléluia.
Voilà. Alléluia, justement.
Vous êtes déjà allé au Parc Spirou?
Ouais, une fois, et surtout que cette année, j'aimerais repartir avec mon fils de 3 ans.
Et voilà, très bien.
C'est 3 ans demain.
Et vous allez pouvoir partir avec votre fils et avec deux autres personnes, un adulte et un enfant. Vous faites quoi dans la vie, Sofiane?
Je suis technicien dans la télésurveillance.
Ah, il y a du travail
bip,
en ce moment.
Bip, bip, bip.
Il y a du boulot, il y a du boulot.
Tout à fait, ouais, voilà, tout à fait, ça y est. Surtout en ce moment.
c'est ça. Et vous nous écoutez depuis longtemps, Sofiane?
Depuis cette foutue pandémie, désolé pour le mot. Ouais. Donc, je vous ai découvert, vous êtes vraiment des oxygénateurs de cerveau.
Bon. Ah ça, c'est très gentil.
Ça fait vraiment plaisir de vous écouter le matin quand je pars au boulot. Donc, Cécile, Rosé, après, voilà. Et tout le monde aussi.
Voilà, c'est ça. Mais très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Vous souhaite une bonne journée. Et puis, on est ravis de vous offrir donc ces 4 passes pour le parc Spirou à côté d'Avignon. Vous allez voir, il y a 5 nouvelles attractions qui sont magiques. On vous embrasse, Sofiane. Merci d'avoir appelé.
Super, merci beaucoup.
À
bonne
très
journée.
Bientôt.
Ciao, ciao.
Bonne journée, au revoir.
Dans un instant, cette enquête sur Didier Raoult. Raoult, une folie française aux éditions Gallimard, pardon, 0826-300-300, vous voulez discuter avec les deux journalistes qui ont mené cette enquête, poser des questions qui ne sont peut-être pas dans le livre ou dans le livre. On vous attend au standard, à tout de suite.